Camille Allary, La Boiteuse. Chapitre 1. Elle avait près de 22 ans lorsqu'elle prit, dans mon village, la direction du pensionnat des demoiselles. C'était une fille blonde et maigre, à l'air modeste, aux yeux bleus sans éclat, au visage insignifiant, à la démarche lourde et traînante. Sa toilette était toujours fort simple. Son père, un charron très assonnaise, jouissait d'une excellente réputation. Aussi le curé ne jurait-il que par Mademoiselle Céleste Chabrier. On la disait charitable, vertueuse, et ce fut un grand scandale dans le pays quand on apprit, 7 ou 8 mois après, que l'institutrice était follement éprise de M. Garcin, le nouveau vicaire. Tous les matins, un peu avant l'ouverture de la classe, Céleste se rendait à l'église. C'était à ce moment que l'abbé Garcin disait sa messe. L'institutrice montait les marches du porche, rapidement, furtivement, comme une fillette qui va à son premier rendez-vous. Elle poussait la porte qui battait la muraille derrière elle et trempait ses doigts dans le bénitier. L'église, presque déserte, était encore pleine d'ombre. Des rayons de soleil tamisaient à travers les vitraux coloriés et venaient éclairer une toile sur laquelle s'étalaient les nudités musculeuses d'un Saint-Étienne martyrisé. Agenouillées devant la grille branlante du maître-autel, leurs voiles baissées, 2 ou 3 dévotes priaient silencieusement. Le bedeau, coiffé d'une calotte de velours, juché au haut d'une longue échelle, son plumeau à la main, époussetait les lustres. Quelques veilleuses brûlaient discrètement au fond de la grande nef. Le regard de Céleste embrassait tout cela. Aussi légère qu'un sylphe, elle s'avançait, effleurant à peine les dalles de marbre blanc et noir, jusqu'à la chapelle latérale où elle savait que le jeune vicaire devait officier. Là, elle tombait sur ses genoux, ouvrait son paroissien et, fiévreuse, en attendant l'arrivée de l'abbé, la tête basse, faisait semblant de s'absorber dans la lecture des oraisons. De sa place, la boiteuse entendait le bruit des chaises que l'on rangeait. Le froufrou des robes soyeuses parvenait jusqu'à son oreille. Des chuchotements timides, des éternuements étouffés par les mouchoirs tirés à la hâte, s'élevaient dans le calme imposant qui régnait. Puis, soudain, derrière l'autel, la porte verte de la sacristie s'ouvrait. Alors, Céleste levait ses yeux remplis de flammes. Son cœur battait à coups pressés. Elle reconnaissait le craquement de ses souliers vernis à boucles argentées dont les talons pointus heurtaient les dalles. Du fond de l'église, elle voyait approcher le vicaire. Pareil à un astre émergeant des nuées sombres, il s'avançait, tenant le calice entre ses mains potelées. Rasé de frais, ses cheveux frisés rejetés en arrière, l'œil mourant sous ses larges paupières à demi-closes, vêtu de l'aube blanche à petits plis et de l'étole violette brodée d'or, précédé d'un enfant de cœur à figure d'ange, il marchait vers elle. En face de l'autel, il faisait le signe de la croix, dessinait une savante génuflexion et gravissait ensuite les marches qui le séparaient du tabernacle dont le soleil frappait les dorures. Pendant toute la durée du divin sacrifice, la maîtresse de pension dévorait du regard l'abbé Garcin. Elle l'étudiait en détail lorsqu'il se tournait pour lire les taillitures. Elle admirait son front qu'elle voyait de profil et sa grâce accomplie, l'aisance souveraine de ses mouvements. Sa taille cambrée, son cou nerveux, la jetaient dans des extases infinies. Ses lèvres charnues, qui se joignaient en une courbe parfaite, éveillaient en elle le frémissement des chairs. Il lui venait de brutales envies de mordre ses cheveux noirs. Elle était jalouse de cet enfant qui, là, devant elle, versait maladroitement l'eau des burettes sur ses doigts effilés. Au moment de l'élévation, tandis que la clochette tintait, tandis que le prêtre baisait la nappe, puis consacrait l'hostie, des éblouissements la prenaient. Un long frissonnement secouait tout son corps, et, vaincue par le rêve troublant de l'amour partagé, pantelante d'un émoi voluptueux, il lui semblait que la chaleur tiède du baiser de l'abbé passait sur les pointes roses de ses seins roidis. Quand elle s'éveillait de l'assoupissement qui suivait ses crises, la messe était depuis longtemps finie. Le vicaire avait disparu. Brisée, anéantie, Céleste gagnait la porte de l'église. Dans la rue, elle marchait précipitamment, jetant autour d'elle des regards effarés de voleuse. Elle se demandait avec anxiété si les passants ne devinaient pas le secret qu'elle gardait précieusement enfoui dans un recoin de sa poitrine. Cette idée l'épouvantait. C'est dans cet état de surexcitation qu'elle reparaissait à l'externat où ses élèves, réunis dans la cour, l'attendaient en jouant à la main chaude. Toute la journée, dans la mélopée assourdie de la classe, en revoyant l'image de l'abbé Garcin, son cœur bondissait et, dévoré par la fièvre de l'impatience, pendant que la voix harmonieuse du vicaire chuchotait à son oreille ces mots entendus si souvent, « Pax Domini, sit semper vobiscum », la pauvre amoureuse attendait avec joie la messe du lendemain. Le soir, dès que le repas était achevé, elle allumait sa lampe, laissait son père et ses sœurs à table et montait bien vite s'enfermer dans sa chambre, dernier asile qui lui restait pour pleurer. Elle avait besoin de vivre seule avec ses pensées. Elle se jetait tout habillée sur son lit et, le front dans ses mains, songeait. Comme cette chambrette carrée, au plafond trop bas, lui semblait froide et nue. Elle étouffait dans ce petit appartement où, depuis sa sortie de l'école normale, sa vie de jeune fille aimante et naïve s'était écoulée avec le même calme, avec la même quiétude désespérante. C'est là aussi qu'elle avait d'abord espéré, c'est là que ses illusions, profanées par le froid baiser de la réalité, s'étaient effeuillées une à une. Son existence n'avait jamais été qu'une chaîne non interrompue de souffrances, de déplaisirs, de déceptions. Pourquoi, comme tant d'autres, n'avait-elle pas rencontré sur sa route une âme sœur de la sienne? Pourquoi Dieu la laissait-il vieillir sans lui permettre de goûter aux joies profondes de l'amante et de la mère? Pourquoi, malgré les ardeurs de son sang, la condamnait-il à rester vierge? N'était-elle pas excusable, elle, la dédaignée, la déclassée, d'avoir élevé dans un coin ignoré de son cœur un autel à cet abbé qui, pour elle, représentait l'être idéal aux embrassements duquel elle s'était si souvent abandonnée, en songe? C'était avec une volupté cuisante que la boiteuse s'abîmait ainsi dans sa douleur. Accoudée à sa fenêtre, elle demeurait là des heures entières, rêvant, sanglotant, désirant la mort. Au-dessous, dans le vallon agrandi par des accidents d'ombre et de lumière, la campagne s'endormait paisiblement avec des murmures mystérieux, des bruits d'ailes parmi les feuillages. La rivière coulait, silencieuse, dans son lit de cailloux, et ses sinuosités, apparaissant entre les troncs d'arbres, luisaient ainsi que des plaques d'un métal argenté. Des souffles légers agitaient les pampres de la vigne folle qui grimpaient contre le mur à la hauteur de la fenêtre. La nuit était si calme et si douce que, parfois, Céleste entendait résonner dans le vaste horizon l'aboiement d'un chien de garde ou le juron d'un pâtre poursuivant à coups de pierre quelques béliers attardés. Chapitre 2. Au commencement de l'hiver qui suivit, la boiteuse, dont la passion s'irritait au contact des obstacles qui l'entravaient, prit une résolution désespérée. Elle se dit « Puisqu'il ne s'aperçoit pas qu'il m'est désormais impossible de vivre sans lui, puisque ma peine le laisse insensible, je vais tout lui avouer. S'il m'aime, nous cacherons notre amour, nous vivrons humbles, heureux, oubliés, loin du monde, n'importe où. S'il me repousse, la mort sera mon salut. » Le jour pointait à peine. Le vallon était encore enveloppé de vapeurs diaphanes. Céleste mit un peu d'ordre dans sa chambre, fit son lit, remplaça la bougie qui s'était consumée pendant sa veille, se coiffa, puis descendit déjeuner. Arrivée sur le seuil du salon, elle jeta un furtif coup d'œil dans l'atelier et vit son père courbé déjà sur sa besogne. La tête nue, les manches de sa chemise retroussées, son large tablier de cuir noué autour de la taille, il redressait les yeux d'un tombereau renversé sous lui. Elle lui envoya un « bonjour père » auquel le bonhomme répondit par une inclination répétée de sa tête grise et entra ensuite dans l'appartement, éclairé à demi par les reflets indécis d'une aube de novembre, où ses sœurs, dépeignées, les yeux gros de sommeil, préparaient leur tasse de café au lait. « Tu es déjà habillée ?» lui dit sa mère. « Comment déjà ? La demie de 7 heures va sonner. Je veux assister à la dernière messe et je suis de beaucoup en retard. Tu ne t'en doutais donc pas ? Elle avala quelques gorgées de café, s'encapuchonna d'une pointe de laine et partit sans ajouter un mot. C'était le jour des morts. Un brouillard épais flottait au-dessus des maisons, voilant les tuiles rouges baignées de la rosée de la nuit. Le village s'éveillait. Les boutiques entr'ouvraient leurs portes. Derrière le vitrage d'une boulangerie, une lampe, pendue à une poutre transversale, dont la fumée avait noirci le verre, veillait encore. Le pharmacien renouvelait les bocaux de sa devanture. Des cris d'enfants, des chants de coqs perçaient l'air. Sur la place, une cruche, oubliée la veille sous la gueule de la fontaine, et penchée sur la mousse, le trop-plein de son contenu. Rien n'est terrible comme ces vieilles filles dans le cœur desquelles la passion a pénétré trop tard. Céleste ne se possédait plus. Elle allait se trouver seule avec lui, le voir, l'admirer, lui parler. Cette pensée, l'espoir des joies futures, la grisait. Lui aussi la chérirait. Un secret pressentiment la n'avertissait. Elle allait enfin connaître des tendresses divines. Oh, comme elle se donnerait à lui avec abandon! Elle se voyait déjà enlacée par ses bras, défaillante, les cheveux épars, la bouche embrasée, et, absorbée par ces choses, la tête inclinée sur sa poitrine, la jambe en retard, l'institutrice courait comme une perdrix blessée sur les cailloux aigus et glissants des ruelles. Elle entra. L'église semblait plus triste, tendue qu'elle était de draperies noires à bandes blanches. Un catafalque, orné d'énormes larmes en forme de poire, aux quatre angles duquel les chandeliers bronzés des grandes cérémonies avaient été disposés, se dressait au centre de la nef. Les chaises étaient inoccupées. Derrière le banc des fabriciens, la domestique du curé balayait le baptistère. Sans même songer à tremper le bout de ses doigts dans le bénitier, comme elle avait l'habitude de le faire, Céleste passa devant la chapelle de Saint-Denis, gravit l'escalier du maître-autel, puis se dirigea vers la sacristie. La porte était entrebâillée. La boiteuse put voir le vicaire qui, sa messe dite, tenant une brosse d'une main, une boîte de cirage de l'autre, cirait ses souliers à boucles tout en badinant avec un des petits clercs. Elle frappa timidement pour s'annoncer. « Entrez !» répondit de l'intérieur la voix forte de l'abbé Garcin. La boiteuse, souriante et confuse, parut sur le seuil. « Je ne vous dérange pas, au moins, monsieur l'abbé » interrogea-t-elle, un peu embarrassée, tandis que, sur ses talons, la porte verte retombait avec un soupir étouffé. « Pas le moins du monde, mademoiselle. Veuillez donc vous remettre !» fit le vicaire qui, d'un mouvement brusque, envoyait dans le coin le plus obscur de la sacristie la brosse et le cirage dont il se servait et présentait galamment sa meilleure chaise à l'institutrice. Il reprit presque aussitôt, d'un ton aimable, « Qui vous amène près de moi de si bonne heure ?»«
Un conseil qui m'est indispensable et qu'en votre qualité de médecin des âmes, vous pouvez seul me donner. »
Je vous remercie de ne m'avoir point oublié en cette circonstance et de vous être souvenu, surtout, qu'humble passeur d'un troupeau de brebis égarées, je suis et serai toujours à la disposition de celles qui, comme vous, sont sur cette terre de douleur les vivantes images de la vertu chrétienne. Il avança un tabouret et s'assit en face de Céleste, le coude sur le vieux buffet de noyer, dans lequel les surplis, les étoles, les chasubles étaient serrés, pensif, le front dans la main. « Parlez maintenant » continua-t-il en fermant les yeux comme pour se recueillir.
« Ce que j'ai à vous apprendre est la confession d'un cœur meurtri, » dit la boiteuse à voix basse. « Confession qui ne doit être entendue que de vous. »
Alors le prêtre, comprenant son intention, se tourna vers le petit clerc qui, oublié devant son armoire, avait profité de cette diversion pour boire quelques gouttes du vin blanc destiné aux burettes qu'il était chargé de remplir. « Louiset, lui dit-il sans colère, tu peux retourner à la cure. En attendant que je revienne, tu enfermeras Blanchette dans l'écurie et tu donneras de l'herbe fraîche aux lapins. Allons, débarrasse le plancher. » L'enfant, pris en faute et heureux d'en être quitte pour quelques paroles un peu dures, essuya furtivement ses lèvres sur la manche de sa blouse bleue, assura sa casquette crasseuse sur sa tignasse brune et s'élança dehors.
Le clerc partit, l'abbé Garcin et Céleste restèrent seuls dans cette pièce, humide comme une cave, qu'une bande lumineuse, entrée par les vitres de l'imposte, coupait en biais, aux carreaux défoncés, aux murs blancs, que décoraient de vieilles gravures religieuses jaunies, et un crucifix trop maigre, au bras duquel les araignées avaient accroché les fils de la large toile, au travers de laquelle des cadavres de mouches, aux corselets d'azur, se devinaient, sous la poussière amassée depuis des années. M. Garcin croisa ses jambes et reprit sa pose rêveuse. « Je vous écoute, » fit-il à l'institutrice. Mais la pauvre fille n'osait plus parler. Elle s'était si aveuglement lancée en avant qu'en regardant derrière elle le chemin parcouru, le vertige la prenait. Ses forces l'abandonnaient tout à coup, elle hésitait devant l'aveu. Elle aurait voulu que le vicaire la comprît, vint à son aide, pressentit l'angoisse qui l'étreignait. Il y eut un assez long intervalle de silence. Le prêtre, immobile sur son tabouret, attendait toujours, très grave. De rouge qu'elle était au début de l'entretien, Céleste était devenue blanche comme une morte. « Je viens à vous, » reprit-elle les yeux baissés, avec une gêne qui figeait jusqu'à ses paroles, « au nom d'une jeune fille de mes amis. Cette personne aimait perdument un homme qui, soit par indifférence, soit par timidité, passe à côté d'elle sans avoir l'air de se douter qu'il a mis le feu du désir dans ce cœur de vierge immaculé, et mon amie serait désireuse de savoir si, aux yeux de l'Église, elle ne pécherait pas en avouant elle-même son amour à celui dont le souvenir peuple ses rêves, à celui auquel elle s'est à jamais liée. « Ceci, dit le vicaire, n'est pas précisément de ma compétence. Vivant dans une retraite au fond de laquelle les bruits du monde n'arrivent pas, je suis fort peu apte à juger les choses qui ne touchent pas directement à notre religion. Malgré cela, puisque vous tenez à connaître mon avis sur cette question, je vous dirai que, dans l'espèce, votre ami peut, sans grand danger pour sa conscience, tenter la démarche dont vous me parlez. C'est là un acte de hardiesse qui convient peu à une jeune fille, je l'avoue, mais que l'Église lui pardonnera parfaitement, dites-le-lui de ma part. » Le but que poursuit votre ami est le but sacré que Dieu indiqua aux créatures humaines. Le mariage effacera sans peine cette peccadille d'une âme fortement éprise. S'aimer les uns les autres est la loi divine et, du haut de son ciel, le Seigneur, entouré des légions d'anges radieux qui chantent sa gloire éternelle, sourit à ceux qui le cherchent pour se chérir et s'unir en lui. « C'était un peu mon avis, » approuva la boiteuse dont la voix tremblait. « Et vous avez conseillé votre ami dans ce sens ?»« Oui, monsieur l'abbé. Malheureusement, tous les avis du monde, si sages qu'ils soient, ne parviendront pas à rendre sa position meilleure. L'amour qui remplit son cœur est un amour fatal et l'homme qu'elle aime porte la robe des ministres du Christ. « Un prêtre ? Elle aime un prêtre ?» exclama le vicaire en tenant ses yeux rivés sur le visage de l'institutrice qui, la poitrine oppressée, tourmenté l'ourlet de son tablier pour se donner un maintien. Chapitre 3. Monsieur Garcin commençait à s'expliquer la démarche de Céleste. Il n'était plus la dupe de sa comédie. Les derniers mots qu'elle venait de prononcer avaient répandu devant ses yeux des torrents de lumière qui lui permettaient d'établir des points de corrélation entre cette visite matinale et certains actes de la vie de l'institutrice restés présents dans sa mémoire. Il se souvenait de l'assiduité avec laquelle elle assistait à sa messe, des interminables stations qu'elle faisait au confessionnal le jour où il donnait l'absolution aux pécheresses repentantes, de ses demi-mots, de ses airs mystérieux, des regards voilés dont elle l'enveloppait lorsque, après l'avoir fixée une dernière fois, elle se levait, les genoux ankylosés par une inaction prolongée, et cédait, comme à regret, sa place à une autre dévote. N'était-ce pas à lui qu'elle en voulait? Et cette amie qu'elle ne nommait pas, n'était-ce pas elle en réalité? Malgré ses réflexions, le vicaire parvint à conserver son impassibilité apparente. Il ouvrit sa tabatière, une élégante tabatière de marquis, argent et vermeil, prisa, éternua, se moucha dans son foulard à ramages et continua. « La question est grave, beaucoup plus grave. Nous nous trouvons en présence d'une de ces difficultés que les pères de l'Église n'ont point encore résolues et qui, avant de l'être, soulèveront de nombreuses controverses. Je crois, et en ceci je parle selon ma conscience, que votre ami peut, sans craindre de compromettre son salut, poursuivre sa campagne. Le mariage rachète les fautes du passé. C'est lui le saint qui lave les souillures de l'âme. Quant au prêtre, sa robe de serviteur du divin crucifié ne doit pas être une barrière entre lui et la femme qui rêve de lui consacrer sa vie. À tout prendre, il peut tout aussi bien servir son souverain maître au coin du foyer domestique, au milieu de ses enfants, qu'au pied des autels, dans la pompe du Saint-Sacrifice, aux lueurs des cierges, au bruit des cloches sonnant à grande volée, la gloire du Sauveur du monde. Céleste, suspendue à ses lèvres, ne put retenir un suprême cri d'espérance. « Mais alors, s'écria-t-elle, je suis sauvée !»« Comment sauvée? C'est vous qui... » Il n'acheva pas, la surprise lui avait coupé la parole. Quand il reprit possession de lui-même, lorsque le sang eut cessé de battre sourdement à ses tempes, il vit la boiteuse agenouillée à ses pieds, suppliante. Cramoisie, les bras tendus vers lui, elle se traînait sur les genoux, balbutiant. « Oui, c'est moi, maudissez-moi s'il le faut. Je le sais, il n'est pas d'avilissement que je ne mérite. Mais vous aurez pitié de moi, vous me pardonnerez. Je vous aime !» Elle se tordait, sanglotait, baisait passionnément le bas de la soutane du vicaire. Elle avait même fini par s'emparer d'une de ses mains. « Il y a plus d'un an que cela dure » ajouta-t-elle en s'animant par degrés. « Je vous dis que je vous aime plus que ma mère, plus que Dieu, plus que tout. Ne me repoussez pas, ce serait un crime. Au commencement, cela me semblait odieux. Je passais toutes mes nuits à pleurer, à me débattre contre cet amour naissant, j'ai songé au suicide. Maintenant, j'oublie le passé, j'ai tout dit, j'ai enduré la plus douloureuse de mes tortures. Je suis là, à vos pieds, pleine de confiance, presque heureuse. Prenez-moi, donnez-moi la joie de vous appartenir. Je suis à vous, corps et âme, et je lis les promesses d'un Éden terrestre au fond de vos yeux. » Monsieur Garcin l'écoutait sans répondre. Sa jeunesse, engourdie par la règle du séminaire, sa jeunesse trop longtemps verrouillée, révoltée subitement, battait la charge dans ses veines. La chaleur que dégageait ce corps de vierge amoureuse troublait sa raison. Et puis, en se prosternant à ses pieds, la boiteuse, comme en adoration devant un archange descendu du ciel, frôlait ses cuisses de ses joues, ses cheveux ébouriffés chatouillaient ses mains. Sous l'effort de l'embrassement, il sentait ses genoux s'enfoncer dans la gorge ferme de l'institutrice et, même à travers le tissu de ses vêtements, le contact de cette chair saine lui donnait le délire, faisait vibrer au fond de son être des ardeurs, des désirs jusque-là inconnus. Alors, il eut un éblouissement. Il se dressa, releva Céleste et, l'attirant contre sa poitrine, entourant sa taille de ses bras nerveux, prit sur sa bouche altérée d'amour le baiser qu'elle lui offrait. Ils demeurèrent ainsi longtemps, enlacés, confondant leurs souffles, lui transfiguré, fou du bonheur que lui réservait le lendemain, elle frémissante, les yeux humides et renversée sous le croisement de ses longs cils, bégayant « Que je suis heureuse ! Que je suis heureuse !» Soudain, le prêtre recula, écarta les bras qui l'étreignaient et, repoussant la boiteuse, « Va-t'en » cria-t-il, « démon vomi par l'enfer ! J'ai fait le serment de me garder pur des souillures de la femme. Je ne veux pas mentir. Va-t'en !» Céleste, bouleversée par cette explosion de colère, le regardait, blême, muette, hébétée. « Tu es venu, » reprit-il, riant d'un rire sarcastique, « avec l'espoir de me faire succomber, et tu as failli réussir. Je suis un lâche, je me repens. Je ne veux pas te laisser renouveler l'épreuve. Sors d'ici, malheureuse, sinon j'appelle et tout le pays saura ton secret. » En la menaçant, il la saisit par un bras, ouvrit la porte, et contraignant la pauvre fille à marcher à reculons, la poussa brutalement dans l'église. Puis, ayant fermé la porte à double tour, il tomba devant le crucifix. Vautré sur le parquet, la sueur au front, les cheveux dans la poussière, les yeux aveuglés par les larmes, il se frappait la poitrine, implorant tout haut le pardon du divin maître et de celle qui le conçut. « Mea culpa !» gémissait-il. « Mea maxima culpa !» Jésus, et vous, Marie, douce et pieuse mère des vierges, ne m'abandonnez pas. Préservez-moi des atteintes de la chair. Ô divine reine des anges, j'ai besoin de votre sainte protection pour ne pas pécher. Ô Vierge incomparable, consolatrice des mortels, prenez possession de mon âme, conduisez-la sur cette mer orageuse que l'on appelle le monde et dont les flots menacent sans cesse. Ô vous dont les mains font pleuvoir la lumière, priez pour moi.
Chapitre 4. La boiteuse s'était affaissée près du maître-autel. Appuyée sur les mains, elle songeait. N'était-ce pas un cauchemar, cet écroulement du bonheur à peine entrevu? Non, ce n'était pas une illusion. Les baisers de ce prêtre l'avaient salie. Elle portait au front la flétrissure de son honneur. Son nom, mêlé à des rires cyniques, allait courir de cabaret en cabaret. Avant la fin de la semaine, elle serait la risée du canton. Maintenant, il ne lui restait plus qu'un refuge, la mort. Elle se leva, horriblement pâle, se signa et sortit par une porte latérale. Une fois dans la rue, au lieu de traverser le village, elle prit à droite le petit chemin qui conduisait au cimetière et de là au champ. Elle marchait droit devant elle, poursuivant une idée fixe. De temps à autre, elle croisait des paysans qui, la bêche sur l'épaule, le flasquet de piquette en sautoir, soufflaient dans leurs mains pour les réchauffer, des marchands ambulants qui la saluaient avec respect. Le brouillard s'était dissipé. Les flots montants d'un soleil printanier tiédissaient l'atmosphère. L'ombre des mûriers dépouillés et des oliviers grêles se projetait en travers du chemin. Des vols de ramiers voguaient dans le ciel clair, puis, tombant tout à coup des hauteurs où il planait, s'abattait dans les prés. En face de la croix de la mission, l'institutrice se retourna et contempla un moment le village, d'où des chants, des bruits d'enclumes, arrivaient par bouffées. Elle entrevit le portail en forme de grille, le mur de clôture un peu bas, la toiture à deux pentes de la maison paternelle. Tout y paraissait tranquille. Sa longue absence n'avait pas encore été remarquée. Des panaches de fumée, sortant de la cheminée noire, montaient en droite ligne vers les nues. Quelques larmes brûlantes perlèrent au bout des cils de Céleste. Elle les essuya et, clopin-clopant, reprit sa route. Elle était déjà loin du village. Une grande paix régnait autour d'elle. Les grelots de nattelage tintaient du côté des baumettes. Sous ses yeux, grossis par les pluies récentes, la Durance coulait, boueuse, avec un souffle apaisé de bête endormie. La boiteuse marcha vers la rive, l'atteignit, monta sur le parapet, lia ses jambes à l'aide de son mouchoir, souleva le devant de sa robe, s'en couvrit la tête, et froidement, sans une hésitation, sans une parole de regret, sans un cri, les bras collés aux côtés, sauta dans le vide. La chute du corps fit éclabousser l'eau contre le parapet, il y eut quelques vagues à la surface de la rivière, ce fut tout. La Durance charria la noyée jusqu'à la fontaine vieille, non loin du moulin, au-dessous de l'endroit où, les jours de lessive, les lavandières viennent rincer leur linge. Là, des touffes de joncs desséchés et des branches de tamaris retinrent le cadavre. Il flottait en plein soleil, au-dessus de l'eau blanchie par l'écume savonneuse, la tête enfoncée dans la vase, les jupes retroussées sur les jambes, ses petits pieds, chaussés de bottines de satin presque neuves, ballottés, entraînés par la force du courant. L'après-midi, vers 2 heures, des galopins qui polissonnaient à cet endroit aperçurent cette masse noire au milieu des joncs, plus loin que les pierres sur lesquelles des serviettes, des chemises, des paillasses étaient étendues, et s'en approchèrent curieusement. Ils s'attendaient à trouver quelques charognes, gonflées, puantes, mangées de vermine. L'un d'eux, le plus courageux, entra résolument dans l'eau et débarrassa la tête de la morte du pan de robe qui la recouvrait.
« C'est la maîtresse d'école » cria-t-il. « C'est la maîtresse d'école !»
En un instant, tout le village fut en émoi. Les filles, les femmes, couraient, s'interpellaient dans les rues. Les oisifs désertaient les boutiques, se succédaient par groupes, s'entretenant de cette mort tragique, concernés. Il y eut une foule sur la berge, autour des gendarmes. Deux hommes de bonne volonté retirèrent le cadavre de la rivière pendant qu'une brave femme partait à la recherche du pharmacien. Il était trop tard.
Le pharmacien n'avait plus rien à faire, la boiteuse avait tenu parole.